Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les ONG appellent cela le jour du dérèglement, car la France a émis depuis le 1er janvier la totalité des gaz à effet de serre qui sont normalement autorisés en un an dans le cadre de l'accord de Paris et de l'objectif de neutralité carbone pour 2050. Nous sommes déjà à découvert climatique, les militants écologistes demandent des comptes aux politiques de Paris à Bruxelles.
Dans la crise migratoire et diplomatique avec la Turquie, les ministres européens de l'Intérieur ont rejeté hier soir le chantage exercé par Ankara.
Alors que des dizaines de milliers de personnes ont afflué vers la Grèce depuis vendredi et l'annonce du président turc d'ouvrir les frontières de son pays, enfin vers l'Europe, car rares sont ceux qui arrivent à fuir les bombes de la Syrie à la Turquie. Impasse humanitaire, vous l'entendrez dans ce journal.
Et puis ayons une pensée pour ces 300 millions d'élèves qui n'iront pas en classe aujourd'hui dans le monde, Catherine.
Pour se protéger contre le nouveau coronavirus, l'Italie est le dernier pays à avoir fermé ses écoles pour tenter de freiner l'épidémie. À la une également, les enseignants-chercheurs invités à déserter amphi et labo aujourd'hui en France pour dénoncer la future loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Collectifs et syndicats voient se profiler précarité et crédits en berne.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une dizaine de minutes, faut-il avoir peur du soja dans nos assiettes? On posera la question à Pierre-Marie Aubert. Il est chercheur en politique agricole et alimentaire à l'IDRI.
Quand le fossé est béant entre les objectifs et la réalité climatique, quand la Commission européenne se félicitait hier d'entériner l'objectif de neutralité carbone en 2050 dans un projet de loi climat inédit à l'échelle d'un continent, la jeune militante suédoise Greta Thunberg préférait, elle, dénoncer l'hypocrisie des 27 qui poursuivent, Pologne en tête, des politiques favorables aux énergies fossiles. Illustration ce jeudi, le jour du dérèglement, où comment la France est déjà à découvert climatique. En clair, notre pays vient d'émettre en 9 semaines seulement, la totalité des gaz à effet de serre autorisés normalement sur un an dans le cadre de l'accord de Paris et de la fameuse trajectoire de neutralité carbone d'ici 30 ans, Véronique Rebérotte.
En 2050, la loi française prévoit que nos émissions de gaz à effet de serre ne devront pas dépasser les 80 millions de tonnes de CO2 par an. C'est à ce niveau que se situe la capacité de nos forêts, nos prairies, des océans à absorber tout ce que nous produisons comme gaz à effet de serre. Une neutralité carbone dont la France est bien loin, selon les calculs de plusieurs associations écologistes. En 2020, ce 5 mars, les 80 millions de tonnes ont déjà été émises. Célia Gauthier de la Fondation Nicolas Hulot.
On a voulu regarder en fait, qu'est-ce qui se passerait cette année si on devait respecter les objectifs de 2050 sur le climat? Et les objectifs, il s'agit de la neutralité carbone. C'est le moment où la France n'aura plus d'impact sur les dérèglements climatiques. Et ben, en regardant ce qui se passerait, on s'est aperçu qu'en fait, la France était très très loin du compte et qu'en 9 semaines, le budget carbone serait épuisé et la France aggraverait considérablement la crise climatique.
Pour les ONG, 2050 c'est demain et les petits pas ne suffiront pas. Cécile Duflot, directrice de l'ONG Oxfam.
Ça veut dire qu'on a une génération, que c'est la génération charnière et que c'est maintenant. Que c'est maintenant qu'il faut, en matière de politique transport, en matière d'agriculture, en matière d'immobilier, d'aménagement, il faut changer les choses en profondeur. Et on sait que c'est possible. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Donc il fallait aussi visualiser l'écart entre les discours et les actes.
Si la France continuait sur sa trajectoire, c'est en 2085 qu'elle atteindrait la neutralité carbone et non en 2050.
Et des militants écologistes, dont Greta Thunberg, ont prévu de manifester demain à Bruxelles pour dénoncer la capitulation et l'arrogance des législateurs européens face au dérèglement climatique. Illustration encore de ce dérèglement, l'Institut européen Copernicus annonce ce matin que nous venons de vivre l'hiver le plus chaud jamais enregistré en Europe, avec une température supérieure de 3,4 degrés à la moyenne. L'Europe confrontée à un autre défi migratoire et diplomatique. Depuis que la Turquie a décidé la semaine dernière d'ouvrir ses frontières occidentales, faute de soutien, dit Ankara, de l'UE en Syrie, chantage inacceptable, ont déclaré d'une même voix les 27 hier lors d'une réunion à Bruxelles, suivie par Pierre Benazé.
La priorité, c'est d'abord la sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne, avant de se préoccuper du sort des migrants eux-mêmes. Le Luxembourg, la Finlande, l'Allemagne et la France prévoient d'accueillir des réfugiés, mais la volonté d'empêcher ce qui est qualifié ici de franchissement illégal des frontières extérieures de l'Union est le centre des préoccupations, Christophe Castaner, ministre français de l'Intérieur.
Nous sommes confrontés à un moment peut-être historique sur notre responsabilité pour garantir aux citoyens européens le respect de nos frontières. Il y a la volonté du déploiement du dispositif de Frontex à proximité de la Grèce et de la Turquie, et c'est absolument indispensable. Nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer que l'Europe est celle du libre déplacement en sens un si nous ne sécurisons pas, dans de bonnes conditions, les frontières européennes.
L'essentiel, les ministres rappellent que l'Union doit se conformer au droit humanitaire international, mais la Commission européenne souligne qu'il existe des règles spécifiques en cas de crise. La décision du gouvernement grec de suspendre l'enregistrement des demandes d'asile pour un mois est donc par défaut soutenue par ses partenaires européens. Plusieurs pays ont accusé expressément le président turc Recep Tayyip Erdogan d'exercer un chantage envers l'Europe afin d'obtenir son soutien, et ceci en poussant les migrants à affluer vers les frontières avec l'UE, en particulier vers la Grèce.
Ankara qui filtre au contraire les arrivées de Syriens sur son sol depuis la province d'Idlib où 3 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont coincés sous les bombes entre l'armée de Bachar al-Assad soutenue par la Russie et les insurgés appuyés pour certains par la Turquie. 1 million de personnes déplacées à cause des combats à Reyhanli, ville frontière turque avec la Syrie et Idlib. Aurélien Colli a rencontré l'un des rares réfugiés admis en Turquie pour des raisons médicales. Son sort pourrait résumer la tragédie de la guerre en Syrie qui entre dans sa 10e année.
72 ans, bonnet en laine sur la tête et vieux habits rapiécés, Abou Abdallah vient d'arriver d'Idlib. Malgré ses lunettes aussi épaisses qu'une loupe, il voit à peine et n'entend quasiment plus rien. À cause des bombardements, tant de bombardements, j'ai été blessé aux yeux et aux oreilles, raconte le vieil homme, qui était à Yarmouk en 2018, une banlieue de Damas assiégée par le régime. Il a fui dans le dernier convoi de civils, vers Idlib, comme à chaque reconquête d'un territoire par l'armée de Bachar al-Assad. Je n'allais pas rester là-bas avec ces criminels qui tuent même leurs propres frères, lance-t-il, en décrivant l'enfer qu'il a rattrapé 2 ans plus tard, à Idlib, avec à nouveau les bombes du régime et de son allié russe. On se cache dans les caves, on survit sous terre là-bas, témoigne Abou Abdallah, finalement admis en Turquie pour être opéré des yeux. Je n'aurais jamais imaginé de tels crimes, et que Bachar al-Assad soit encore là, c'était un médecin éduqué, rappelle le vieil homme, avant de déplorer une génération perdue dans une Syrie revenue 50 ans en arrière selon lui, une Syrie où tout est détruit. Les infrastructures, mais aussi les hommes, la structure sociale et toute forme d'éthique ou de morale.
Aurélien Colli, envoyé spécial de France Culture à Reyhanli, ville frontière turque avec la Syrie et Idlib. Le sort de cette province d'Idlib et de ses 3 millions de civils au menu d'une rencontre aujourd'hui entre les grands parrains, pourrait-on dire, de la guerre en Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontre aujourd'hui à Moscou le président russe Vladimir Poutine. La défense aérienne du régime de Bachar al-Assad dit avoir essuyé cette nuit une attaque de missiles israéliens dans le sud de la Syrie, dans une province limitrophe du plateau du Golan, dont la majeure partie est occupée et annexée par Israël. Une voix pour la paix s'est éteinte, celle du péruvien Javier Pérez de Cuellar, l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui avait joué un rôle crucial pour mettre fin à la guerre Iran-Irak dans les années 80, impliqué encore dans la libération d'otages américains retenus au Liban, ainsi que dans la conclusion d'accords de paix au Cambodge et au Salvador. Javier Pérez de Cuellar est mort hier à l'âge de 100 ans.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les écoles sont fermées à partir d'aujourd'hui en Italie.
Au moins jusqu'au 15 mars, afin de se prémunir contre le nouveau coronavirus qui a tué 107 personnes en Italie. Premier foyer européen, plus de 3000 cas recensés au total. Par précaution donc, 8,5 millions d'élèves n'iront plus à l'école. Cours assurés à distance, promet le gouvernement. Sauf que toutes les écoles et toutes les familles n'ont pas forcément les outils adéquats, comme des tablettes. Pas d'aide financière non plus pour garder les enfants. Le gouvernement réfléchit alors à un congé pour l'un des deux parents. Et en plus de tout cela, le président du Conseil, Giuseppe Conte, reconnaît la fragilité de son système de santé.
Nous avons des hôpitaux et un système de santé qui, aussi excellent et efficace soit-il, risque d'être surchargé. Et c'est évidemment un problème que nous ne pouvons pas résoudre à court terme. Car vous l'aurez compris, le problème, ce sont les soins intensifs, si bien sûr une crise de plus grande ampleur devait se produire.
Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, victime économique du coronavirus à présent. La compagnie aérienne britannique Flybe annonce ce matin qu'elle arrête toutes ses activités à court de liquidités, incapable de faire face au trafic aérien qui freine dans le monde. En France, Emmanuel Macron réunira lui cet après-midi chercheurs et médecins engagés dans la lutte contre le Covid-19. 285 cas sont recensés en France, 15 patients dans un état grave, la Guyane touchée à son tour. Ils craignent une précarité croissante à l'université et des crédits en berne. Les syndicats du supérieur et la coordination nationale des facs et labos en lutte appellent à cesser le travail aujourd'hui et à manifester à Paris, par exemple, dans le quartier latin, inquiets face à la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui aggraverait des maux dont souffrent déjà l'université et la recherche, la baisse des financements, la hausse de la précarisation, l'accumulation d'évaluations vides de sens, selon Johanna Siméon-Germanos, politiste à l'École normale supérieure.
Moi, j'ai l'impression que la politique de la recherche aujourd'hui, elle se fait effectivement à Bercy et certainement pas au ministère, avec en plus une ministre qui est pas en position particulièrement forte. Et il y a un malentendu complet sur l'argent qu'on prétend nous apporter, parce que ça correspond à une bipolarisation du milieu de la recherche, avec cette idée qu'on va donner de l'argent aux gens qui seraient déjà bons et qui seraient déjà des stars. Et c'est une mentalité qui est destructrice des milieux qui produisent les chercheurs et qui prétend coopter des personnes. Très souvent, quand on s'élève contre certains aspects de cette loi, les tenures track, les postes de professeurs juniors, on nous dit « mais enfin, il faut arriver à récupérer les gens qui sont bons ». Comme si il n'y avait pas des milieux qui produisaient les gens qui sont bons. Le PDG du CNRS, Antoine Petit, a utilisé la métaphore du PSG en disant « mais enfin, quand on veut une star, il faut pouvoir la payer ». Sauf que quels sont les milieux qui produisent ces stars? Et il y a un désaccord, je pense, de fond entre la communauté scientifique et ce ministère, qui est une partie du diagnostic. On nous dit « il y a manque d'attractivité ». Non, il y a crise de la recherche française et de l'enseignement supérieur, crise des conditions d'enseignement, crise des conditions de production de la recherche, nous restons un milieu attractif. On a plein de collègues américains, européens, qui trouvent que c'est chouette des postes de chercheurs à vie, que ça évite d'aller en permanence, aller se vendre à la thématique en vogue du moment, et qui sont attirés par des salaires sans doute modestes, on pourrait en reparler, mais un salaire modeste avec une protection sociale qui tient la route, un salaire à vie, il y a plein de gens qui trouvent ça attractif. Et pourtant, ce sont ces postes-là, ces postes pérennes, qui sont en chute libre depuis plusieurs années, et on nous propose à la place des postes précaires, parfois mieux payés. On nous propose des postes de contractuels alors que la précarité a explosé comme une nappe de pétrole dans tout l'enseignement supérieur.
Johanna Siméon, politiste à l'École normale supérieure. Elle était interrogée par Anne Lorchouin. Entretien et dossier complet à retrouver en une sur franceculture.fr. Banni de la politique pour une fraude fiscale d'une ampleur exceptionnelle, Patrick et Isabelle Balkany, maire LR de Levallois-Perret et première adjointe de la ville, ont été condamnés hier en appel à 3 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Le temps de ce jeudi 5 mars encore pluvieux, des giboulées parfois orageuses dans le sud-ouest. Attention par ailleurs aux fortes rafales de vent des Pays de la Loire jusqu'à la Bourgogne. Les températures sont comprises ce matin entre 5 et 9 degrés sur la moitié ouest du pays, ainsi qu'au bord de la Méditerranée. Comptez de 2 à 5 degrés toujours ce matin sur le reste de la moitié est, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu, 7h12. Faut-il avoir peur du soja dans nos assiettes? Le suspense est entier, la réponse dans quelques secondes.